Décryptage.
Anne Cantner.
5 ans après le début de la guerre au Yémen, un nouveau front s'est ouvert à Aden. Au départ, il y a un conflit entre un président et des rebelles houthis, chaque camp étant soutenu par des groupes ou tribus locales et par des puissances régionales comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Mais depuis le mois d'août, on assiste à une sorte de guerre dans la guerre. La coalition qui soutenait le président yéménite se divise et la ville d'Aden est désormais aux mains d'un groupe séparatiste. Et ce groupe n'agit pas seul, il est soutenu par l'un des piliers de la coalition, les Émirats Arabes Unis. Alors, la coalition internationale est-elle en train de se fissurer? Bienvenue dans Décryptage. Pour tenter de répondre à cette question complexe, nous recevons ce soir Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également au téléphone, François Frison-Roche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, vous avez dirigé le programme d'aide français à la transition au Yémen entre 2012 et 2014. Alors Gilles Gauthier, que s'est-il passé à Aden ces dernières semaines?
Ce qui s'est passé à Aden n'est pas nouveau. Il y a au sud Yémen des forces de tout ordre, parmi lesquelles il y a des forces autonomistes, des forces salafistes, à quoi se sont ajoutées des milices financées, organisées, entraînées par les Émirats Arabes Unis, et d'autres milices financées et entraînées par l'Arabie Saoudite. Donc, il y a déjà eu des quantités de mouvements dans ces régions. La nouveauté, c'est que il y a eu une prise du pouvoir à Aden, d'abord par les milices autonomistes, indépendantistes, puis à nouveau une prise de pouvoir par les milices dites gouvernementales, mais qui en fait ne représentent un gouvernement inexistant, qui n'a plus aucun pouvoir, qui n'est pas présent sur le terrain. Donc les milices, on peut dire, saoudiennes. Et puis à nouveau, bombardement des milices saoudiennes par les Émiratis, avec départ des milices et prise de pouvoir par les autonomistes. On voit donc qu'il y a un combat entre, par personne interposée, entre saoudiens et Émiratis. C'est plutôt un jeu qu'un combat.
Alors, pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue justement au Yémen, on va d'abord revenir un petit peu en arrière. Il y a 4 ans, lorsque la coalition est intervenue, le conflit opposait le président, le gouvernement légitime, aux rebelles houthis. Qu'est-ce qui a changé depuis, François Frison-Roche?
Oh, beaucoup de choses ont changé parce que la situation a évolué en 4 ans et demi. Il y a eu évidemment ce côté binaire de rebelles houthis opposés à une coalition sunnite, et puis les choses ont évolué de telle manière que on est arrivé à un embrasement général, à une déliquescence totale de l'État yéménite, et maintenant à finalement un État failli globalement, parce que celui qui avait tenté à renouer le fil avec l'Arabie Saoudite, l'ancien leader Ali Abdallah Saleh, a été assassiné par ses alliés houthis.
Mais la situation humanitaire, en plus de cela, est catastrophique. Plus de 90 000 morts, 3 millions de personnes déplacées et un habitant sur 4 qui a besoin d'une aide humanitaire pour survivre. Et dans tout cela, on l'a évoqué rapidement, les puissances régionales jouent donc un rôle important. Les autorités sont soutenues par l'Arabie Saoudite qui non seulement accueille le président qui est en exil, mais aussi bombarde de nombreuses cibles rebelles et souvent des civils d'ailleurs. Et Téhéran qui appuie les insurgés houthis qui sont des chiites. Gilles Gauthier, comment se traduit ce soutien de l'Iran aux rebelles houthis? Est-ce que Téhéran fournit des armes, un soutien financier?
Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. L'Iran éprouve de la sympathie et on peut dire que l'Iran est du côté des rebelles houthis, enfin des houthis qui contrôlent la quasi-totalité du Yémen Nord. Mais je n'ai pas vu jusqu'ici que quelques, si, il y a quelques missiles qui ont été envoyés. Il est possible qu'il y ait des armes qui soient envoyées. Mais c'est une goutte d'eau dans le conflit. D'un côté, il y a des armes, c'est le côté de la coalition, c'est-à-dire des Émiratis. De l'autre côté, il y a surtout des sortes de guérilleros qui contrôlent leur territoire. La présence, le prétexte de cette intervention saoudienne est justement une influence iranienne sur les Houthis. Mais jusqu'ici, rien n'a été vraiment prouvé dans ce domaine. L'engagement de l'Iran est un engagement assez discret. Les Iraniens ne se sont pas engagés pleinement. S'ils s'étaient engagés pleinement, si les Houthis recevaient vraiment des armes plus fortes, ça pourrait être beaucoup plus dangereux pour l'Arabie saoudite. Ce n'est pas le cas.
Et la situation serait différente, si je comprends bien ce que vous dites. Les Houthis contrôlent aujourd'hui une grande partie du territoire yéménite à l'ouest et au nord, et notamment la capitale Sanaa. Quel est l'état des forces rebelles aujourd'hui, François Frison-Roche?
Oh, l'état des forces rebelles est sensiblement équivalent à ce qu'il était autrefois, surtout qu'une partie de l'armée qui était restée fidèle à Ali Abdallah Saleh, de gré ou de force, s'est alliée aux rebelles Houthis et dispose d'un arsenal relativement complet, aussi bien en armes lourdes, chars, tanks, mais aussi des missiles balistiques qu'Ali Abdallah Saleh avait acheté en 30 ans de dictature. Et puis maintenant qu'ils ont dû sans doute épuiser un peu leur stock, les rebelles Houthis utilisent des drones qu'ils fabriquent plus ou moins en bidouillant un certain nombre de choses, de tubes qu'ils récupèrent sur les forages pétroliers. Ils ont obtenu, paraît-il, je cite le rapport, le dernier rapport des experts de l'ONU, des systèmes qui ne sont pas automatiquement en provenance d'Iran, mais des moteurs ou des systèmes diesel qui viendraient du Japon ou d'Allemagne. Donc vous voyez qu'il y a eu toujours en période de guerre une capacité de trouver par la corruption, par les trafics divers et variés, un certain nombre de choses qui permettent donc aux Houthis d'affirmer une présence militaire, puisque ces rebelles Houthis se permettent même d'envoyer maintenant des drones armés sur le territoire de l'Arabie saoudite.
Voilà pour le nord et pour l'ouest du pays. Et dans le sud, donc, un nouveau front est ouvert depuis quelques semaines.
Les forces séparatistes du Sud, qui sont soutenues par les Émirats Arabes Unis, contrôlent entièrement la ville d'Aden et les communes limitrophes. Je reviens justement de la banlieue d'Aden, et sur la route, il y avait quelques points de contrôle des séparatistes. Les autorités accusent les Émirats d'avoir aidé les séparatistes en bombardant les forces gouvernementales.
Le témoignage d'un habitant d'Aden recueilli il y a quelques jours. Aden, grand port du Sud, qui était jusqu'à présent considéré comme la capitale provisoire du gouvernement yéménite. Et à travers ces combats, à Aden, deux alliés se retrouvent face à face. D'un côté, donc, l'Arabie saoudite qui soutient les forces gouvernementales. De l'autre, les Émirats arabes unis qui appuient donc les séparatistes du Sud. Gilles Gauthier, pour quelles raisons les Émirats soutiennent-ils les séparatistes ?
Ah ben, les Émirats, c'est très clair. Les Émirats ont une politique rationnelle. Les Émirats veulent couper le Yémen en deux. Et faire du Sud une sorte de protectorat, du Sud et de l'île de Socotra. Le Sud est peu peuplé. La majorité de la population, la grande majorité, 20 millions sur 25, disons, est actuellement dans les zones contrôlées par les Houthis. Le reste, le Sud, où se trouve le pétrole, pourrait très bien être intégré dans le cadre, pas intégré comme une partie du territoire, mais disons sous contrôle du Yémen qui y investit,
des Émirats arabes unis
qui investirait, pour l'Arabie saoudite, c'est un peu différent. Ils ne pensent pas, ils ne rêvent pas de pouvoir envahir le Yémen, c'est impossible. Ils ont l'espoir de pouvoir imposer leur suprématie à toute la région. Et c'est aussi pour le prince héritier une façon de prouver qu'il est capable de gérer une crise internationale. Enfin, c'était ce qu'il pensait au début de la crise, mais il n'a pas montré qu'il en était réellement très capable.
Ce qui s'avère effectivement plus difficile que prévu manifestement. Les Émirats Arabes Unis, vous le disiez à l'instant, cherchent à établir une sorte de protectorat. Ils ont d'ailleurs déjà commencé à consolider leur influence dans cette zone de la mer Rouge, donc entre le Yémen et l'Afrique. François Frison-Roche, il y a déjà eu quelques gestes, quelques actes posés de la part des Émirats Arabes Unis.
Oui, manifestement, les Émirats essayent d'exercer le contrôle sur le golfe d'Aden, le détroit de Bab el-Mandeb et le sud de la mer Rouge. Pour cela, ils ont construit une base aéronavale dans le sud de l'Érythrée, mais ils ont aussi construit des bases, ou sont en train de les construire, dans la corne de l'Afrique. Il leur manquait évidemment le contrôle des côtes du sud Yémen. C'est manifestement ce qu'ils espèrent en restant au Yémen du Sud, quitte à susciter des dissensions entre les diverses tribus pour que les Émirats apparaissent comme le pays non seulement capable de maintenir une certaine forme d'ordre en abreuvant les milices en armes, mais également en contrôlant cette région et la sécurité qui est finalement d'une importance considérable aussi pour les pays occidentaux. Il faut savoir que le détroit de Bab el-Mandeb transite entre 35 et 40% du transit maritime mondial. Donc les Émirats ont là la possibilité de jouer un petit peu dans la cour des grands.
On le voit, Émirats Arabes Unis poursuivent donc des objectifs différents de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, la stratégie sur le terrain change également. Parce qu'en juillet dernier, les Émirats ont annoncé le retrait d'une partie de leurs troupes du Yémen. Qu'est-ce qui a motivé cette décision, Gilles Gauthier ?
Non mais... ce sont des mots. La plupart des gens...
Rien passé depuis cette annonce.
La plupart des gens qui se battent au Yémen ne sont pas des Émiratis proprement dit. Ce sont des gens qui sont payés sur place. Vous savez, au Yémen, tout le monde a un fusil. Le Yémen est un système tribal où on a l'habitude de se battre. Actuellement, il y a des quantités de milices partout. Ce qui est le plus grave que les bombardements, c'est que le pays a éclaté en petits morceaux. De chaque côté, il y a des troupes armées qui circulent. C'est une situation qui ressemble un peu à celle du Liban pendant la guerre civile, mais beaucoup plus manipulée de l'extérieur. Et ce qui est très grave dans cette situation, c'est que cette opération se maintient dans le silence international.
Alors pour l'instant, en tout cas, sur le terrain, donc les stratégies divergent légèrement, on l'a vu autour de cette situation d'Aden. Dans quelle mesure ces dissensions menacent-elles la coalition formée par les Émirats et par l'Arabie Saoudite, François Frison-Roche ?
Eh bien, cela va certainement poser un problème justement dans l'équilibre global de cette coalition. Donc quand même, j'allais dire, le regard est principalement tourné vers l'ennemi héréditaire que constitue l'Iran. Alors si ils sont en train de commencer à se disputer et à se battre par milices interposées au Yémen, cela permet évidemment à l'Iran de pouvoir avancer un certain nombre de cartes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les États-Unis, sentant le piège, ont annoncé publiquement qu'ils commençaient à avoir des entretiens, des pourparlers avec les rebelles houthis pour voir exactement comment la situation pourrait être réanalysée et abordée dorénavant, car manifestement les États-Unis veulent garder le contrôle sur l'évolution de cette zone. Pour les États-Unis, l'Iran est l'ennemi principal. Il ne faudrait pas que leurs alliés régionaux, l'Arabie Saoudite et les Émirats, s'affaiblissent mutuellement et arrivent à une forme de divorce ou de dissension qui affaiblirait la politique américaine dans cette zone.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces discussions, justement, François Frison-Roche, entre les États-Unis et les rebelles houthis ? En tout cas, ce qui a été annoncé par Washington.
Eh bien, ils ont manifestement fait cette annonce publique qui, pour moi, est une forme aussi de pression sur l'Arabie Saoudite, principal pilier de la coalition. Au bout de 4 ans et demi, les États-Unis s'aperçoivent que l'Arabie Saoudite n'est pas capable de gérer cette situation et ils veulent exercer des pressions pour que les choses ne dégénèrent pas et reviennent dans un fil, j'allais dire, de négociations qu'ils maîtrisent et qu'ils peuvent accompagner.
Gilles Gauthier, le président est en exil en Arabie Saoudite, donc en ce moment, la capitale officielle du Yémen est occupée par les rebelles houthis et désormais la capitale provisoire est aux mains de séparatistes. Quelle est aujourd'hui la légitimité du chef de l'État du Yémen et dans quelle mesure lui pourrait être impliqué dans des négociations?
Mais même à l'époque où Aden était considéré comme la capitale, le gouvernement n'y était pas un seul ministre. Ce gouvernement n'est plus rien. Il n'est plus rien, il n'est plus qu'un léger paravent derrière lequel l'opération conjointe émirienne et saoudienne se cache. N'est pas du tout avec ce gouvernement-là qu'une solution peut apparaître. C'est effectivement par des entretiens entre les Saoudiens et les Houthis ou entre les Américains et les Houthis. Je me félicite de ce que les Américains et ce réalisme. Les Houthis peuvent très facilement d'ailleurs changer de camp et s'allier avec les Saoudiens. Il ne faut pas oublier que les ancêtres des Houthis, les gens de cette région, étaient les plus grands alliés de l'Arabie Saoudite. Donc tout ça peut très bien se faire, un nouvel ordre peut s'instaurer qui surprenne tout le monde.
Et qu'est-ce qui serait le déclic qui permettrait de passer le cap et d'avancer vers la paix, de mettre enfin un terme à ce conflit?
La seule chose, c'est que quelques pays qui jouent un rôle important dans le monde s'en occupent, les États-Unis s'en occupent, mais il faudrait aussi que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne parlent entre elles de ce sujet et prennent une position commune pour agir, pour influencer. Il faut aider l'Arabie Saoudite à s'en sortir la tête le plus haute possible et il faut aider les Émirats aussi à s'en sortir et faire que, disons, trouver une solution qui tienne compte de l'état des forces en présence.
Qui pourrait conduire à quoi, selon vous? Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, de nouveau une partition du pays, au moins une sorte de fédéralisme?
Je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir sans un fédéralisme relativement lâche, relativement souple, parce que maintenant, le Yémen du Sud a pris une trajectoire très très différente de celle du Yémen Nord. C'est dommage. Il faut essayer de maintenir un lien fédéral le plus fort possible, mais effectivement, la solution devra tenir compte de cet état de fait.
Alors, il y a déjà eu des discussions à la fin de l'année 2018 entre les différentes parties impliquées dans cette guerre. Ça s'est passé à Stockholm. Cela avait quand même permis de trouver un accord sur certaines zones, et notamment concernant l'immense port de Hodeïda, dans l'ouest du Yémen. François Frison-Roche, est-ce que d'autres négociations de ce type sont envisagées aujourd'hui?
Eh bien, manifestement, Martin Griffith essaye de courir après...
qui est l'émissaire des Nations Unies pour le Yémen.
Voilà, Martin Griffith, qui est l'émissaire des Nations Unies. Il a traité à Stockholm un aspect qui était très important, qui était surtout la crise humanitaire, et le règlement de cette crise humanitaire passait par une forme de neutralisation du port d'Hodeïda. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait différente, puisque les conflits se déroulent à Aden, dans la zone sud, où il n'y a pas de Houthis. Donc, est-ce que l'on va laisser de côté la situation humanitaire pour traiter la situation du Sud? Comment est-ce que les choses vont être abordées par le représentant de l'ONU? Parce que il n'y a que lui, d'une certaine manière, qui représente la communauté internationale. Donc c'est lui qui doit éventuellement proposer une solution.
Et quelle serait cette solution? Est-ce que ce sera au cas par cas, zone par zone, comme ça avait été fait pour le port de Hodeïda, ou est-ce qu'on peut imaginer une solution globale?
Évidemment qu'il faudra chercher une solution globale. Malheureusement, après 4 ans et demi de cette guerre, je doute beaucoup que même, la formule fédérale convienne, parce que on va avoir éventuellement du tribalo-fédéralisme, mais absolument pas une répartition équilibrée du pouvoir avec des possibilités de maintien finalement d'une unité du pays. Sans compter que quand même toutes les résolutions de l'ONU ont toujours insisté sur l'unité du Yémen. Donc il va falloir aussi que l'ONU réfléchisse à modifier en quelque sorte sa formulation sur l'avenir du Yémen.
Merci beaucoup, merci d'avoir participé à cette émission. François Frison-Roche, chercheur au CNRS, et Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen. Merci d'avoir été avec nous, à demain.